Hé, hey, rapido! Where is Mo?
Dans l'ascenseur, rythme endiablé.
Yes, we can.
On se comporte en bavard!
J'aime me beurrer la biscotte.
Un pickle ring!
Ouais, c'est pas faux.
Pop culture.
Et ça, c'est sur Pulpe, votre émission de la pop culture.
Ça fait beaucoup là, non?
Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 5 février, il est 13h et bienvenue sur Pulp, votre émission de pop culture. Je suis Gonvel et je suis toujours accompagné de mes acolytes. Alors on a Justin ici présent. Justin, comment vas-tu aujourd'hui?
Bah très bien, et toi?
Bah écoute, ça va très bien. Du coup Justin, tu nous as préparé une petite chronique tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire vite fait un petit sommaire de ta chronique?
Bah ouais, tout à fait. Donc j'ai commencé donc dans Game Watch aujourd'hui par parler de Google Stadia un petit peu, parce qu'il y a eu quelques petites infos concernant la console récemment. Et enfin je vais parler de la ferme GameStop.
Ok. Très bien. Ensuite tout simplement on a Titouan. Titouan, comment ça va?
Bah très bien, écoute, en plus il fait super beau aujourd'hui.
Effectivement, il fait beau. Tu vas nous faire une petite chronique juste après celle de Justin. Est-ce que tu peux nous faire aussi un petit sommaire?
Alors tout d'abord je vais vous parler de la CES 2021. Du coup la convention sur les nouvelles technologies qui s'est déroulée à Las Vegas durant le mois de janvier. Et ensuite je vais vous parler de Elon Musk, notre seigneur à tous.
Ok, pas de soucis. Et puis Liam, tu vas pas nous faire de petites chroniques, mais comment ça va aujourd'hui?
Parfait, malgré la fatigue, mais je suis très content d'être là.
Hein. Ok, bah parfait. Écoutez, moi aussi je suis content de pouvoir commencer cette émission. Alors comme on l'a dit juste avant, la petite chronique Game Watch suivie de la chronique Tech News. Comme d'habitude, on finit avec les films et actus sur Rennes. Toujours accompagné de musique de qualité. Et du coup, Justin, je te laisse la parole pour ta chronique Game Watch, mais avant, générique.
Here we go!
Donc aujourd'hui dans Game Watch, donc je vais vous parler de Stadia. Mauvaise nouvelle d'ailleurs, donc pour les fans de Stadia. Bon après, je sais pas s'il y en avait beaucoup.
Oh, quel dommage.
Mais donc oui, donc environ un an et demi après son lancement officiel, Google a bien été obligé de se rendre à l'évidence que Stadia n'a jamais vraiment réussi à décoller ni à conquérir le cœur de beaucoup de personnes. Et donc la firme américaine a décidé d'arrêter tout simplement le développement de jeux exclusifs à Stadia. Parce que oui, moi-même...
Oh, c'est pas vrai, quand même.
Puis sortait des chefs-d'œuvre en plus, hein, c'est dommage.
Ah bah ouais.
Je crois pas si bien dire parce que donc moi j'étais même pas au courant que la mission initiale était que Stadia donc ait ses propres exclusivités comme n'importe quelle grosse console comme la Xbox One ou la PS4 ou PlayStation et Xbox. Mais en fait c'est tout simplement parce que aucun jeu n'est jamais sorti en fait de la structure Stadia. Il y avait pourtant pas moins de 150 développeurs qui travaillaient, mais il y a toujours eu à l'heure actuelle aucun jeu en fait qui est sorti officiel, et du coup il n'y en aura jamais puisqu'ils ont décidé de tout arrêter. Donc
ouais, bon en même temps c'était jeune ça dire hein, se faire un marché dans la place du gaming c'est un peu chaud.
On peut pas toujours savoir le talent de KFC quoi.
Ouais, surtout quand t'as trois grosses entreprises
c'est ça ouais, tu dis que le marché il est peut-être un peu peu rempli quoi, c'est là que tu vois que c'est dur de se faire une nouvelle place.
Ah, c'est sûr, avec PlayStation, ouais. Xbox.
Le truc, c'est qu'ils ont essayé de faire le tout dématérialisé, mais tu vois, comme quoi les gens sont quand même assez attachés au fait d'avoir une console et des CD. Hein.
Ah, bah oui, c'est toujours plus sympa, je trouve. Après, cependant, donc, les utilisateurs du service vont être un peu soulagés. Bon, après, encore une fois, je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs du service, mais que le service restera fonctionnel. Donc, tu pourras toujours quand même jouer à ta console et jouer à des gens à tes maths. Par contre, Google a très clairement déclaré que du coup, tous les projets internes qui devaient sortir après 2021 sont complètement annulés.
D'accord.
Ouais, oui, c'est fini. Ouais, c'est ciao.
C'est comme si c'était une ex-gen, quoi. Il n'y a plus de jeu qui va sortir dessus.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ils espèrent cependant tout de même attirer d'autres grands noms du jeu vidéo pour qu'ils puissent proposer leur dernière production en date sur Stadia. Donc, par exemple, que les derniers titres sortis puissent être jouables sur Stadia pour attirer un peu de joueurs. Donc pour terminer, il y a Google qui est du coup prêt à mettre à son service, de Stadia à disposition d'autres éditeurs qui pourraient s'en servir pour la mise en ligne de leur jeu sur le cloud. Donc en gros un peu proposer à qui le veut bien, si jamais ils ont envie de sortir un jeu sur, sur le cloud de Stadia, bah, qui peuvent le faire. Ils ont jugé que c'était un peu la seule stratégie possible et envisageable pour faire perdurer un peu dans le temps Stadia.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Tu me diras, c'est plutôt cool, hein. Ça peut servir de tremplin. Mmh. Hein.
C'est vrai que ça peut. C'est pas une mauvaise idée.
Je trouve qu'il y a un jeu qui va fonctionner d'un coup sur Stadia et ça va partir au top.
Et après, oui, c'est un peu. C'est sûr que c'est un peu la seule option qu'il leur restait, quoi. C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'autres choix s'ils voulaient faire durer un peu la console, quoi. Parce que ce serait bien en vrai d'avoir de nouvelles têtes de console comme ça. Ça pourrait être intéressant, je trouve.
Bah ouais, mais surtout là du coup ça va devenir une sorte de console pour indépendants, pour jeux indés, et je trouve le concept intéressant.
C'est vrai que
avec un peu de chance, on pourrait trouver une pépite et ça relance le truc, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Ils le font exclu en plus et bam, c'est d'un coup Stadia au top. Donc voilà, donc c'était pour conclure là sur Stadia. Et maintenant donc, je vais parler de l'affaire GameStop. Donc, qui s'est déroulé plus ou moins aux États-Unis, un peu dans le monde du coup, mais principalement aux États-Unis. Donc, il y a la bourse qui s'est ouverte depuis quelques mois donc aux petits investisseurs, dû à la crise sanitaire du Covid, et ce qui a fait que beaucoup d'actions ont baissé. Donc, il y a ainsi donc beaucoup d'étudiants, de salariés ou encore de retraités qui ont pu se laisser tenter par la bourse et l'investissement. Et depuis, donc, il y a beaucoup d'Américains qui utilisent l'application Robinhood pour acheter et vendre des actions. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je précise quand même GameStop. C'est une chaîne de magasins spécialisée dans le jeu vidéo. Et donc c'est la maison mère de la société française Micromania, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Yes. Et donc il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps avec notamment l'application Robinhood et ses actions. Donc Gwenvel, je vais te laisser enchaîner là-dessus, puisque tu as fait pas mal de recherches.
Alors du coup je reprends. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible pas trop long, bien évidemment, un petit peu ce qui s'est passé, et notamment avec le début du commencement, etc. Alors, donc comme tu l'as dit, GameStop, ça allait pas trop mal, etc. Et donc, il y a des hedge fund, toujours avec un accent de qualité. Mais en gros, c'est un regroupement de... on va dire de petites entreprises ou d'investisseurs comme Melvin Capital ou Citron Recherche en français. et en gros, c'est des groupes d'investisseurs qui vont se réunir pour chercher des entreprises qui sont mal, qui sont vraiment au plus bas, et eux, ils vont arriver, ils vont les poignarder, ouvrir leur ventre, prendre un morceau, un foie, un rein, puis ils vont repartir. Et ils vont laisser l'entreprise ensuite dans la merde.
Image.
Donc en gros, c'est ça.
C'est une belle métaphore.
En gros, c'est comme ça. Et d'ailleurs, en général, quand ils commencent à parier sur la chute d'une entreprise, il arrive que dans les journaux, juste après, on est waouh, cette entreprise va mal.
La nouvelle se répand, quoi.
Partir au truc dans le genre, voilà, tu vois. Et donc, ça, l'entreprise retombe de plus bas à chaque fois. Et donc en fait ça c'est du shorting entre guillemets. Ils ont fait du shorting sur GameStop. Donc voilà, tout commençait. Bon bah voilà. Faut savoir que ce genre de choses, il y en a partout. C'est un peu important aussi pour la bourse, puisque ça permet aussi d'aller dénicher des entreprises qui mentiraient sur leur chiffre d'affaires par exemple. Donc c'est pas mal aussi. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes, en tout cas dans le milieu de la bourse. Il faut savoir que du coup il y a un utilisateur, donc Deep Fucking Value, qui est un youtubeur streamer sur des conseils en bourse. Donc voilà, il fait des vidéos et des streams en donnant quelques conseils. Donc il avait quelques milliers de vues à tout péter. Et en fait lui, il s'est dit, quand GameStop a baissé, il s'est dit moi je vais acheter les actions de GameStop parce que il aimait GameStop. Et du coup il a mis ses économies dedans. Donc il a commencé à acheter les actions à 4$, ce qui était très peu pour une action. D'ailleurs on lui a même dit que fallait qu'il arrête de mettre ses économies dans GameStop, parce que ça servait à rien, l'entreprise allait couler. Du coup le tweet récemment qui est monté au top, c'est-à-dire que en décembre 2019, il a tweeté justement à la personne qui lui a demandé d'arrêter de revendre ses actions parce que ça servait à rien. On se retrouve en janvier 2021. Voilà, petite prédiction du mec. Et donc en gros, il a claqué $53,000 de ses économies.
Ah, quand même.
enfin c'est toutes ses économies qu'il a claquées en gros. Aujourd'hui, ses actions varient entre 11 millions et 30 millions. Voilà.
Ah, du coup, il est millionnaire.
Donc, il faut savoir que non, parce que justement, il est pas millionnaire. Parce que faut savoir que du coup, l'action, bah, elle est passée de $4 à environ $380 en quelques semaines. Sauf que lui, bah, ça fait 7 mois à peu près qu'il achète des actions. Et en fait, ça fait 7 mois qu'il, sur Internet, bah, montre que, bah, il a acheté telle action, pourquoi, etc. Et du coup, il est allé sur un Reddit où ça rassemble des traders entre guillemets qui sont un peu des trolls aussi de temps en temps, mais c'est quand même des personnes qui sont intéressées par la bourse et qui savent ce qu'ils font. Et du coup voilà, ils se sont dit nous aussi on va acheter des actions de GameStop comme lui, ça permet aussi un petit peu de faire par mini troll, mais du coup de faire augmenter les actions, une petite boutade effectivement. Sauf que du coup, bah, beaucoup de gens ont commencé à acheter des milliers, et comme en 2-3 semaines, du coup c'est passé, ça a augmenté, et c'est la meilleure augmentation en bourse d'une entreprise depuis les 25 dernières années.
Ah oui, quand même.
Ouais, et du coup en gros, le but de ceux qui ont investi, c'est de pas revendre,
bah oui,
les actions pour faire du mal aux hedge fund, puisque justement, si on revend pas, en fait, les hedge fund qui ont parié sur la chute dans l'entreprise perdent de l'argent tous les jours. Tous les jours, ils perdent de l'argent parce que tous les jours, ils doivent rembourser ce qu'ils avaient acheté, et notamment les intérêts. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise entre guillemets Citron Recherche est dead. Elle est morte.
Au revoir Citron Recherche.
Elle valait il fallait des milliards pour qu'elle rembourse, et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, en fait, ils sont en train de se dire vous êtes des héros si vous ne revendez pas vos actions. Après, ils en veulent pas aux gens qui revendent leurs actions, hein, normal, hein. Tu gagnes masse thune, ah, des, oui, fois t'es daté. Ok, et c'est pour ça que je dis, bah, pour l'instant, Deep Fucking Valley You, il est pas millionnaire parce qu'il a pas revendu ses actions, étant donné que c'est déjà un des plus gros actionnaires. Il a pas revendu ses actions, quoi. Et donc là, ce qui s'est passé récemment, un petit peu en mode dafuck, c'est que, comme tu l'as dit, Justin, juste avant, les personnes de type lambda qui sont pas dans le monde de la finance, etc., achètent leur action sur Robinhood, qui est une passerelle pour acheter des actions, mais sans intérêt. Donc, c'est-à-dire, tu payes pas plus pour acheter une action. Sauf que là, l'application a interdit d'acheter des actions de GameStop, mais tu peux toujours les revendre. Sauf que ça, c'est illégal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'interdire d'acheter des actions, surtout si tu peux juste les revendre. Donc voilà, donc ils sont dans l'illégalité, bien évidemment. Et il faut savoir que Robinhood est associé à une entreprise qui s'appelle Citadel. C'est une énorme entreprise. En gros, c'est un market maker. Donc, en gros, c'est un fournisseur de technologie et un intermédiaire qui crée des ordres d'achat et de vente. Et en fait, cette entreprise, Citadel, a investi plusieurs milliards dans une certaine entreprise qui s'appelle tout simplement Menville Capital. La même entreprise qui était en train de dénicher le GameStop pour avoir plus de thunes. Voilà, déjà ça fait un petit peu défaut. Et il faut savoir aussi que le principal client et fournisseur de Robinhood, c'était Citadel. Donc c'est-à-dire, là en fait on a un petit peu... On est un petit peu, en fait, des flèches qui vont et viennent dans un schéma, voilà. Donc, en gros, si je résume, c'est-à-dire que Robinhood, c'est le client de Citadel, qui, lui, est le fournisseur et aussi un principal client de Robinhood. Citadel investit dans les personnes qui font du shorting, donc dans les hedge funds, qui dénichent les petites entreprises pour les piller, entre guillemets, et du coup, voilà... et du coup, t'as les internautes, les personnes de type lambda qui eux achètent par Robinhood. Et du coup, là, ce qu'il y a eu récemment, ce qu'on a appris récemment, c'est que en fait, il y a eu une technologie qu'on appelle le Fort Odorflow, pardon. Alors voilà, Odorflow. Un truc du genre Odorflow plutôt. Et en gros, cette technologie permet en fait de voir les actions des acheteurs. Donc en fait, ça permet de voir les infos. Enfin, c'est un peu comme les cookies pour résumer plus précisément. Mais en gros, Citadel achète des infos utilisateurs à Robinhood. Si vous achetez une action chez Robinhood, et ben Citadel va acheter les infos d'utilisateurs sur vous pour justement ça permet du coup de voir les actions des acheteurs et du coup comme je vous l'ai dit juste avant, Citadel c'est quand même une énorme entreprise sur la technologie. Ils ont des ordinateurs qui calculent ultra vite et donc en fait ça permet de voir qui achète quoi, ça permet de voir qu'est-ce qui est en hausse dans les bourses et donc en fait Citadel ils achètent ces informations d'utilisateurs pour pouvoir voir quelle action va monter très vite et donc acheter juste une milliseconde avant l'utilisateur la même action. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont en fait acheter des actions qui vont être moins chères, mais en sachant qu'ils vont monter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire à peu près ?
Ouais. Ouais, à peu près, ouais.
Donc en gros, ils sont en train de couiller les utilisateurs. Voilà. Entre guillemets. si on résume ça, c'est-à-dire que toi tu veux acheter une action qui est à 4$, et bah Citadel en fait, grâce à toi, va acheter la même action, mais beaucoup moins cher, et toi du coup tu vas la payer un peu plus cher quand tu vas l'acheter.
Yes.
Donc en gros, tu te fais couiller. Alors que techniquement, Robinhood c'était une entreprise, c'était une plateforme qui voulait être en mode tout le monde peut acheter des choses dans le marché de l'investissement sans frais de port et tout, parce que c'est pas réservé qu'à une élite, entre guillemets.
C'est fou que ce soit légal comme procédé, je trouve.
Alors c'est totalement légal, j'ai oublié le prénom, mais c'est celui qui a inventé la pyramide, la fameuse pyramide du travail, où on voit ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, et etc. Et
tous ceux qu'on fait connaissent.
Oh, je connais, même ouais, sans,
ouais,
sans
ouais, ouais. Mais après, elle est très connue, cette pyramide. C'est du style, en gros, celui qui est tout en haut, il gagne masse thune parce que ceux qui sont en deuxième leur donnent de l'argent, ceux qui sont en troisième donnent de l'argent au deuxième qui donne de l'argent au premier, et ainsi de suite, tu vois. C'est une pyramide sans fin, et ceux qui se font couiller, c'est ceux qui sont en bas, bien évidemment.
Logique.
Et du coup, en gros, c'est les petits traders, en fait, sont les petits cochons des gros traders, tout simplement, clairement, parce que c'est grâce aux petits traders que les gros traders gagnent encore plus d'argent avec ce genre de procédé. Et du coup, on va dire que tout ça, GameStop, a permis de faire une grosse merde, entre guillemets, dans le marché du trading aux États-Unis. Ça a permis quand même de découvrir certaines choses que font certaines entreprises qui sont pas illégales, mais c'est pas ouf. Et je pense que par la suite, à mon avis, on va pouvoir en reparler plus tard, d'ici quelques semaines, mais il va se passer quelque chose, à mon avis, juridiquement, un truc du genre. En tout cas, ça reste à voir. Faut quand même continuer à regarder ce qui va se passer pour plus tard. Mais en gros, voilà ce que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur GameStop, tout simplement. Voilà. Donc c'est la fin de la chronique du coup. J'espère que ça a été assez clair, même si c'était un peu compliqué pour certains termes. Et du coup, on vous tiendra au courant sur la suite de cette histoire. En tout cas, du coup, on va passer tout de suite à la session musique avec The Black Keys de Lone Boy et Stuck in the Sound.
Oh,
et
je vous dis coupé au couteau.
Yes. Et je vous dis bonne écoute à tous et on se retrouve juste après. Et nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture, toujours accompagnée de mes acolytes. On va passer tout de suite à la chronique Tech News, présentée par Titouan. Mais avant, générique.
3, 2, unité, top.
Alors oui, je vais vous parler de deux principaux sujets. Qui sont tout d'abord la CES 2021, du coup avec mon magnifique accent, la Consumer Electronics Show, franchement c'est pas trop mal réussi, qui s'est déroulée du 11 janvier au 14 janvier 2021. Alors je vais vous faire un petit résumé des avancées technologiques qui ont pu être, comment dire, en tout cas celle que j'ai trouvée le plus intéressante, hein, c'est une liste non exhaustive, de ce que j'ai pu trouver vraiment d'assez insolite ou d'assez intéressant. Alors, premièrement, un smartphone enroulable. Alors, faut voir la vidéo.
Qu'est-ce que c'est que cette diablerie?
Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Alors, imagine ton téléphone. Voilà, t'as ton téléphone dans les mains. Et en fait, quand t'appuies sur un bouton, l'écran va s'allonger. Et va devenir une tablette. Il va s'agrandir.
Ça, je l'imagine pas.
Waouh.
Parce que en fait, la coque va se, comment dire, va s'ouvrir. Et dans la coque, en fait, il y a l'écran est enroulé. Du coup, quand la coque va se déplier, l'écran qui est dans la coque du téléphone va se dérouler et ça va agrandir ton téléphone. Ça, c'est... Wow. Quand tu vois la vidéo, c'est assez fou. Franchement, tu vois un écran s'agrandir devant tes yeux. T'as pas l'habitude.
Je viens de croire, là.
Et du coup c'est LG qui fait ça, tout le monde connaît le fabricant coréen. Hein. Et alors c'est ça fait suite à tout ce qui est technologie d'écran pliable, de ce genre de technologie. Et je vous invite à taper smartphone enroulable LG parce que le voir c'est assez spécial, genre c'est assez impressionnant je trouve.
Mais du coup la qualité genre de l'écran, c'est une qualité écran classique ou du coup tu vois vu que c'est pliable c'est pas tout à fait la même?
Bon alors Justin, non seulement c'est pas encore en vente, mais je pense que si ça l'était, je ne l'aurais pas entre les mains. Mais en tout cas de ce qui est dans la vidéo promotionnelle, hein, du coup c'est une vidéo promotionnelle. Potentiellement c'est un peu surfait, embellie. Tu vois, ouais, un peu embelli.
Un peu du fake. Comme
bon
Cyberpunk,
bah la qualité a l'air.
Pardon.
Ouais, la qualité a l'air normal, si ce n'est très très belle, hein. Genre c'est une qualité comme on peut espérer en retrouver sur un smartphone de 2021.
Ouais d'accord, ouais, c'est comme ça impressionnant.
Ah non mais c'est moi quand je le vois c'est bizarre, t'as l'impression de voir l'écran sur ça, ouais c'est assez spécial à voir, hein. pour quelqu'un qui a connu encore notre génération, ça va bientôt disparaître, mais notre génération qui a connu les premiers écrans tactiles en soi, c'est assez bizarre à voir.
Ouais, je veux bien croire.
Alors en continuant sur les téléphones.
Ah oui, deux secondes, petit temps. Je viens de voir la vidéo et c'est vrai que c'est incroyable.
Mais c'est spécial. Hein.
Je regarde la vidéo justement, mais c'est vrai que ça a l'air d'être Inception.
Bah, ah ouais, ça fait effet spéciaux. Genre tu te dis pas que c'est un truc réel.
Oh là là, mais oui, mais attends. Moi je pensais pas ça du tout.
Ah ouais, mais t'as vu, c'est exceptionnel.
Ah mais Satan, mais... Oh non, c'est trop chelou,
on est d'accord.
C'est un fond vert.
Bah moi j'aime bien.
En fait, t'as pas la distinction de... Tu sais, c'est pas comme si tu voyais deux écrans qui se séparent. Non, vraiment, là...
Ça se déroule, c'est parce que ouais, l'écran est enroulé dans la coque, et en fait, quand ça se déplie, bah, c'est comme une toile qui va se dérouler et venir...
C'est grave impressionnant. Mais ça c'est
j'adore.
Cool, ça. Moi j'achète. J'achète. C'est combien? C'est
où? Je pense que ça va être cher. Déjà que les écrans pliables.
Il paraît beaucoup trop cher.
Après aussi, on peut se poser des questions comme pour les écrans pliables, de combien de temps ça va durer avant que ça se casse, quoi. Genre, parce que les écrans pliables, oui, c'est connu pour être très très fragile, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Bon, alors pour continuer sur les téléphones, alors là, c'est juste une info, hein, présentation du Samsung Galaxy S21. Parce qu'il y a toujours plus de chiffres.
Oui, mais moi j'ai été choqué, j'ai vu une pub ou un truc comme ça récemment, et j'ai vu S21, je fais, ils sont déjà au 21e?
Alors, je pense que c'est pour l'année, pour être franc.
Ah, ils ont sauté des chiffres,
sinon, ça
je pense, oui.
Ah,
du
okay.
coup, Samsung qui sort le Samsung Galaxy S21, évidemment. Du coup, on sera sur un prix de 860 €, hein.
Ça va, tranquille.
Quand même. Oui. On l'est pas au niveau d'Apple, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Et il est déjà disponible, parce qu'il à partir du 29 janvier qu'il est devenu disponible. Alors après, je ne sais pas où en est, comment dire, les stocks en France, mais en soi, tu peux l'acheter, je pense, sur le site de Samsung. Et en plus, un téléphone toujours plus grand, toujours plus énorme dans la main, histoire que tu puisses rien en faire. Et enfin,
c'est connu.
J'ai deux technologies encore à vous présenter sur cette CES 21. Alors une dernière sur les écrans, parce que je l'ai trouvé marrante. C'est un écran parchemin. Alors je sais pas si vous voyez ce que... Imaginez un parchemin, sauf que c'est un écran. Vous allez me dire, très logique Titouan, merci beaucoup. Mais c'est pour que vous ayez vraiment l'image en tête, genre vous avez deux rouleaux de chaque côté, et que quand vous les séparez, tac, il y a un écran pareil qui se déroule. Chut. Et ça fait un écran parchemin.
C'était au Moyen-Âge, mais dans le futur, quoi.
Bah, ça a l'air stylé, très inutile, vu la taille du machin. Parce que du coup, c'est la taille d'un parchemin. Et surtout, ça, c'est ce que disent les articles sur lesquels je suis allé me renseigner. C'est que ça a l'air aussi extrêmement fragile. On va pas se mentir, un écran qui tient tout seul dans le vide comme ça, ça sent mauvais, quoi. Déjà que. Qui n'a pas un smartphone splété en 2021? Alors, un parchemin. Et en plus, ça a l'air extrêmement coûteux. Hein. Il n'y a pas de prix qui ont été annoncés. Hein. Mais ça a l'air très, très, très cher.
Les gens qui sortent un putain de parchemin dans leur sac là pour regarder.
Ça n'a aucun.
Oyez!
Concrètement, on est d'accord que ça n'a.
Le maire vous demande d'être présent ce matin.
Ça a zéro utilité concrète. Hein.
Ça. C'est juste. Non, même pas. J'allais dire. Pour faire stylé dans la rue, mais tu vois un mec gueuler avec un parchemin dans la rue, tout seul en plein milieu. T'es là, t'es. Ce mec est fou.
Bah, au moins, tu sais que ce mec est riche. Il est con, mais il est riche.
Ouais, c'est vrai.
Et enfin, la dernière, qui est un peu plus sérieuse du coup, mais toujours sur l'audiovisuel, vous me direz-vous. Si je sais pas si on peut appeler ça l'audiovisuel. Mais c'est une rétine artificielle. Et j'ai trouvé ça extrêmement stylé. Parce que.
Comme tu le dis.
Faut savoir qu'elle a d'abord été testée sur des singes, mais que récemment elle est passée en phase 2, hein, sur des humains, et qu'elle a eu des résultats extrêmement encourageants. Hein, en fait, sur 5 personnes qui ont été opérées pour recevoir cette rétine artificielle, faut savoir que c'était des personnes âgées, parce qu'ils ont testé sur des personnes atteintes de la DMLA, du coup, c'est dégénérescence maculaire sénile. Qui est du coup une maladie. Bah, c'est quand tu deviens aveugle quand t'es vieux, quoi, pour résumer.
Ça te fait une tache noire.
Ouais, okay, d'accord.
Voilà, et ils ont testé ça du coup sur 5 personnes âgées qui étaient atteintes de cette maladie. Et en fait, sur les 5 personnes, il y en a 3 qui ont pu retrouver une vue correcte, ce qui consiste à pouvoir lire des textes, même écrits en minuscules. Il faut savoir que les 2 personnes qui n'ont pas eu ces résultats, c'est parce qu'en fait l'opération n'a pas pu se dérouler comme prévu et ils ont pas pu installer correctement l'appareil. Mais du coup, pour l'instant, 100% des personnes chez qui l'appareil est correctement installé, où l'opération se déroule bien, peuvent retrouver une vue plus que correcte car ils peuvent lire un texte écrit en minuscule.
C'est une excellente nouvelle, ça.
Mais c'est très très encourageant. Hein. Parce que
ça tourne vers l'homme augmenté en plus un peu, hein, mine de rien.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça tourne vers l'homme augmenté un peu, tu vois.
Ça tourne clairement
corps,
sur
artificiel pour rebooster les capacités. Mmh.
Bah le principe c'est du coup on est sur une petite puce, pour être précis, alors un carré de silicium. Alors je pense que seul Justin sait à peu près ce que ça doit être le silicium.
Mais bien sûr que non, nous aussi on sait. C'est quoi un silicium, Justin?
Silicium. Et ce petit carré de silicium, il mesure 2 mm pour 30 microns d'épaisseur. Du coup, c'est extrêmement petit. Et c'est composé en fait de plein de petites électrodes qui vont envoyer des signaux à ton cerveau. Et en fait, ils vont agir comme des pixels. Chaque électrode va un peu être une pixel. Et du coup, ça va reconstituer l'image. Comme si t'avais un appareil photo dans ton œil.
C'est juste incroyable.
Mais c'est extraordinaire. Et genre, et du coup, tu places ça au niveau de la rétine. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est tout petit. Et puis, ça, puis c'est, comment dire, c'est autonome, quoi. Ça, tu retrouves la vue.
Ouais, une fois que c'est mis, ça fonctionne, quoi.
Ouais, c'est, oui, alors c'est un système. J'avoue, j'ai pas trop compris. Et du coup, je vais pas me lancer dans une grande explication, hein. Parce que c'est un peu scientifique pour moi, pauvre licence d'histoire. Mais grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est que une électrode sur deux, en fait, il y a une électrode qui va libérer des électrolytes ou je ne sais pas, ou une molécule qui va alimenter l'électrode d'à côté. En fait, ça marche par paire. Il y en a une qui alimente l'autre.
D'accord.
C'est assez incroyable.
Oui. Oh ouais.
Je suis d'accord. Ouais.
Et en parlant d'essais sur les singes, on va passer à Elon Musk, parce que Elon Musk, il a encore fait parler de lui avec des animaux, hein. Décidément, il aime bien maltraiter les animaux. Non, je déconne. On ne sait pas.
Ouais, on sait pas s'ils sont maltraités ou pas.
Alors, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait à un pauvre singe, à un pauvre babouche, me direz-vous? Mais qu'est-ce qu'il a pu lui faire? Eh ben, il a fait un peu comme les cochons.
Une banane moisie.
Il a fait un peu comme les cochons dont j'avais déjà parlé précédemment. Il leur a mis une puce dans le cerveau, hein. Alors, on a toujours une interview un peu déconnectée de Elon Musk qui dit que ils ont utilisé des petits fils qu'ils ont mis dans le cerveau pour relier la puce et que le singe a l'air totalement heureux, hein, que ce n'est pas un singe malheureux, hein, texto, c'est ce qu'il dit.
Ah bah, si le heureux, ça va alors.
S'il est content. Mais il faut dire qu'il y a quoi d'être content. Moi perso, je kifferais parce que ce singe, qu'est-ce que ça lui permet cette puce? Ça lui permet de jouer aux jeux vidéo avec son esprit. Genre pas de manette.
Quoi?
Eh oui. Après, il a pas précisé quel jeu vidéo, hein. Je pense que ça doit pas être plus compliqué que du Pong. Parce qu'il faut quand même.
Ouais, mais quand même, tu fais bouger ta petite barre là juste par ta pensée, c'est trop classe.
Mais c'est extraordinaire, je trouve. Alors, on n'a pas d'exemple et de vidéo ou de démonstration comme on a pu avoir avec les cochons. Mais d'après Elon Musk, c'est. Comment dire? Ça se fait, quoi. Genre,
c'est possible,
ça marche.
Quoi.
Il est capable de jouer aux jeux vidéo par la pensée. Du coup, on passe sur ça fait limite encore science-fiction, genre
un peu de
télékinésie, quoi. Après, tu t'imagines, ouais, c'est ça, le jeu au mid-pong, M-I-N-D. Du coup, c'est un jeu très simple, mais déjà, faut déjà avoir un singe qui soit capable de.
Faut déjà avoir un singe tout court. Hein.
Ouais. Et voilà. Et du coup, il a créé. Bah, moi, je trouve qu'en fait, on pourrait presque dire qu'il a créé pour la première fois un truc contrôlé par l'esprit, parce que j'ai pas d'exemple de technologie contrôlée par l'esprit. Je sais pas si vous en avez.
Ouais, c'est vrai. Il y a vocal, mais. Mais il n'y a jamais eu par.
Contrôlé par l'esprit, si, il y a. Il y a un casque qui permet de contrôler un drone. Alors, c'est un petit drone que tu as en face de toi et tu peux lui faire faire des pirouettes, le faire voler et tout, tu vois. Mais il y a un casque qui existe.
Ah, c'est vrai que ça dit quelque chose, donc on parle.
Ouais, j'ai vu ça dans E égale M6.
Moi aussi, je crois.
La ref, la grosse référence.
C'était ce casque.
Et du coup, voilà, et c'est un peu sur ça que je vais conclure ma chronique, c'est du coup sur ces technologies. Moi, perso, quand j'ai fait quand j'ai préparé cette chronique, vraiment, toutes les technologies m'ont mis sur le cul les unes après les autres, quoi. Vraiment, tu te dis,
ouais,
dans quel monde on vit.
Ouais.
Je sais pas pour vous.
Et là, t'es en mode, ah ouais, ça existe ça, c'est pas dans un film, quoi.
Mais oui, c'est ça, c'est des trucs avant. Même dans Star Wars, tu retrouves pas certains de ces trucs, quoi.
Ouais. C'est sûr.
Et voilà, et du coup, c'est sur ça que je vais te rendre l'antenne, entre guillemets, mon cher Gwenvel.
Eh bien, merci en tout cas, Titouan, de nous avoir partagé ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus incroyables. On va partir du coup avec de la musique, tout simplement, avec We're Not Gonna Take It et Time a Dying. Et je vous dis du coup, bonne écoute à tous, et on se retrouve juste après. We'll be right back. Et nous voilà déjà en fin d'émission, et pour finir cette émission, comme d'habitude, je vais vous parler des sorties de films sur les plateformes de streaming, ainsi que les actualités de Rennes. Alors, pour commencer, sur les sorties de films sur la plateforme de streaming Amazon Prime, je vais vous parler de Bliss. Bliss, ça parle de Greg, qui a été récemment divorcé, dont la vie va à volo. Hein. Il rencontre la délicieuse Isabelle, une femme vivant dans la rue, convaincue que le monde brisé et pollué autour d'elle n'est pas réel. Elle est persuadée qu'ils vivent d'ailleurs dans une simulation. L'aide est rude à l'intérieur d'un vrai monde. Qui n'est pas beau et qui n'est pas un monde de paix, tu vois. Elle est d'abord sceptique, Greg est d'abord sceptique, mais il finit par découvrir qu'il a peut-être une part de vrai dans la théorie du complot d'Isabelle. Et du coup, on va suivre l'aventure de Greg et d'Isabelle pour savoir si est-ce que c'est une théorie du complot ou pas. Donc voilà.
Ça, c'est une grosse théorie du complot quand même. Hein.
C'est vraiment une grosse théorie du complot. Ouais. mais bon, c'est drôle.
Et là, et ensuite, ils vont croiser quelqu'un qui s'appelle Néo, qui va leur parler de pilules bleues et de pilules rouges. Ils vont rien comprendre.
Maintenant, je vais vous parler sur Disney+. Disney+, c'est un petit film d'animation américain, réalisé par Chris Wedge, qui est en sortie en 2013. C'est Epic, la bataille du royaume secret. Donc, il est basé sur le livre pour enfants The Leaf Man and the Brave Good Bugs. Écrit par William Joyce, et ça raconte l'histoire d'une adolescente qui se retrouve dans un royaume secret où elle aide des personnages amusants et fantaisistes à sauver leur monde, ce qui permet de sauver la forêt. Donc voilà, c'est un petit film d'animation qui peut être sympatoche à voir en famille, tout simplement.
Un mélange de Pocahontas et de Alice au Pays des Merveilles. Un mélange de Pocahontas et de Alice au Pays des Merveilles.
Toujours
dans l'originalité.
Sur Netflix, je vais vous parler de Lascar. Donc Lascar, c'est une série. Donc c'est le quotidien d'une inséparable bande de potes, Joe, Polo, Malik et Barquette, qui ont grandi ensemble dans le même quartier, au cœur de la culture de la vanne, des bastons de regard et des gros mythos. Au début du coup de la saison, les parents de Joe du coup déménagent au bled et lui laissent leurs 5 pièces. Autant dire la belle vie, quoi, pour commencer pour nos Lascar. Donc c'est il y a deux saisons. La saison 2 est sortie là sur Netflix avec 24 épisodes.
C'est pas le film qui est sorti ouais, il me semble que c'est le film.
Alors moi, de ce que j'ai vu, c'était la saison sur Netflix. Après c'est peut-être le film, mais
J'ai vu que c'était le film.
Ah, je crois que le film est sorti, mais que peut-être qu'ils mettent en comment dire que le film sort, mais que Netflix en même temps du coup profite et met en ligne la seconde saison.
Peut-être. Ouais. Non, mais ça se trouve, c'est le film, c'est moi qui ai mal vu, mais pour moi c'était la saison, c'est pour ça. Mais je vous fais confiance, si vous dites que c'est le film, c'est que ça doit être le film. Je me suis gouré, c'est pas grave. Et pour Salto, du coup, la fameuse plateforme française.
Salto.
Encore.
Je vais vous parler du film 3h10 pour Yuma, je sais pas si vous l'avez vu.
Moi, pas du tout.
Je pas connaissais tout. Pas, j'ai vu que je l'avais en DVD chez Wham. Il était là, j'ai fait bon, moi je vais le regarder. Il est pas mal du coup. Donc en gros, le synopsis un peu de l'histoire. Donc, revenu blessé, Dan Evan a établi sa famille dans un ranch. La sécheresse a ravagé ses terres, décimé son troupeau et miné la considération qui lui porte sa femme et ses enfants, en particulier son aîné Will, âgé de 14 ans. À la suite d'une attaque de diligence, le célèbre bandit Ben Wade passe par la ville de Bisbee, où il est arrêté avec le concours fortuit de Evan. Recherché par ses hold-up et ses meurtres repérés, du coup le bandit, Wade doit être convoyé vers Contention, à 3 jours de cheval, pour embarquer sur un train à destination de Yuma, où se trouve le tribunal fédéral du coup. Contre une prime qui peut sauver son ranch, Dan Evan s'engage dans l'escorte qui doit accompagner le dangereux criminel. Il est bientôt rejoint par son fils du coup Will, fasciné par l'aura du tueur, d'ailleurs. Tandis que son gang organise son évasion, Wade engage sur le chemin de Contention un bras de fer psychologique avec ses gardiens, usant à la fois de la peur qu'il leur inspire et la séduction qu'il exerce sur eux. Et c'est un bon film... un peu de western du coup, mais en termes d'aventure, d'histoire, et surtout la fin est pas mal. Voilà, je peux vous conseiller de regarder. C'est assez intéressant. Alors, il est long.
Il est long.
Ouais, il fait à peu près 2 heures. Ça peut paraître long, mais le début est un peu long à s'enchaîner puisque bah, c'est beaucoup de routes, etc. Mais par contre, la fin, ça vaut le coup de le voir. Moi, je vous conseille. Alors pour les actus de Rennes, je vais vous parler des écologistes contre le Stade Rennais. Donc les écologistes estiment que le club a entendu leurs préoccupations entre guillemets, puisque les écologistes, ils sont au cœur de la ville de Rennes, les élus écologistes pardon, puisqu'ils préfèrent en fait voir le centre d'entraînement du Stade Rennais du coup s'agrandir sur le site de la Prévalley à Rennes, plutôt que sur des terres agricoles, voilà. Alors que du coup, il y a des associations, eux, par contre, qui sont contre ce projet et qui estiment, pour leur part, que les préoccupations environnementales ont déjà été faites, ont déjà été gérées entre guillemets par la ville de Rennes. Donc, on parle un peu de ça. Du coup, en gros, Mathieu Thorier et Valérie Fachot, du coup. Fâcheux, pardon, co-président du groupe des élus.
Le lapsus.
Ouh, la glissade.
Co-président du groupe des élus écologistes à la ville de Rennes explique que le sport professionnel et l'écologie doivent être conciliés, puisque bah c'est pas, enfin ils veulent pas, logique, que des terres agricoles soient supprimées pour que le Stade Rennais s'agrandisse. Les élus du coup écologistes rappellent que ces dernières années l'adoption du plan local d'urbanisme a permis de reclasser 7 hectares de terre en bordure de Vilaine, entre la station d'épuration et la rocade par exemple, qui étaient identifiés comme urbanisables, pour les remettre dans un secteur qui est naturel et qui et du coup empêcher toute construction. Il y a eu aussi le développement du jardin des 1000 pins de la ferme Perma Gérène. L'installation prochaine d'ailleurs du projet basse-cour ont aussi permis de confirmer la destination agricole de ce site. D'autres terres aussi ont un potentiel agricole qui ont été identifiées ces dernières années et qui vont être attribuées justement pour des projets de naturalisation au courant de cette année 2021. Après, ils reconnaissent aussi qu'il y a des ratés dans la construction, notamment d'une piste active, sans aucune concertation et sans que l'intérêt d'un tel projet soit confirmé. Les communications maladroites du Stade Rennais en juillet 2020, annonçant des extensions importantes de son centre d'entraînement en un autre, pendant longtemps, le manque d'espace de dialogue autour de l'avenir de Prévalley a aussi pu souvent être source d'inquiétude quant aux intentions de la ville sur ces espaces. Donc en gros, là c'est de savoir où est-ce que le Stade Rennais va s'agrandir, soit sur des terres agricoles, soit sur des terres non agricoles, mais des associations sont contre. Donc voilà, c'est un petit peu le petit débat qu'il y a ce mois-ci pour savoir où est-ce que le Stade Rennais va.
Bah ouais, bah perso, pour vivre là du coup, parce que je vois, bah mon appart il est juste à côté, tu vois. Je trouve que c'est bien, genre qu'ils économisent, qu'ils n'aillent pas sur la terre agricole, parce que genre pour le quartier, tu vois, c'est cool. Genre t'es dans plein de villes et genre tu fais 2 km à pied et là t'es un peu. T'as des champs et tout, ça fait du bien, tu respires. Alors que s'ils commençaient à construire des trucs là, déjà que le stade pour passer devant pratiquement tous les deux jours, tous les jours même, genre quand tu vois les kilowatts d'électricité et les centaines de litres de flotte qu'ils utilisent pour leur pelouse alors qu'elle est pratiquement pas utilisée, tu dis bon, vous pouviez économiser les champs, les mecs, genre on vous demande pas trop.
Surtout que si il faut l'agrandir. Enfin, les champs agricoles sont après le périph, donc ça veut dire, comme tu disais, étendre la ville loin, alors que ça n'a pas, y a aucune nécessité de faire ça. Mais du coup, voilà. Après, chacun ses avis. Il y a du pour et du contre. Mais bon, moi j'estime que bon, le Stade Rennais est déjà assez grand pour l'instant. Après, je suis pas très foot.
Sauver les champs.
Ça a rien de couper les champs, quoi. Exactement.
Oui, assez grand.
Donc voilà, c'était les petites actus de Rennes, du coup. Du coup, ça y est, on sait déjà la fin Mais avant de vous quitter et de vous dire bien évidemment à la semaine prochaine, voici les deux dernières musiques, Godzilla et Tie-Eye Collapse d'Eminem. Et enfin, du coup, maintenant, je peux vous souhaiter un bon week-end à vous, les gars. Merci.
Ouais, bon week-end à toi aussi.
Et du coup, à vous aussi, chers auditeurs, auditrices. Et puis, bien sûr, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Pulp, votre émission de pop culture. You're a monster. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cardzilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bobby the brain meaning, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD hydroxy cut. Pass the kibasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay mayday. This beat is cray cray, Ray J, H A H A H A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, up to the fire. So many things that piss them off, it's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper, my fist is ball back up against the wall, pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just pull the pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, up to the fire. Monster, blood on the dance floor, the Louis V carpet. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my index is. So all you will ever get is some motherfucking finger. Finger, prostate exam. How can I have all these fans to perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out. I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear. Ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria. Face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary. Call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary. I'm swearing up and down. They can spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Trigger happy, pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a backseat. Take it back to fat beats with a maxi. Single look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you better got a half eaten Cheeto. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Finna kill him and dump the fucking bodies in a lake. Obliterating everything is iterator. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with a pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a tiller killer. Be killed. I'm a killer. Be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me out of me. You don't wanna be the enemy or the demon who in me. I'll be in the receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning. Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up, but you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your face. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them, till the day that I drop, you'll never say
Till my bones.